Merci la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence avec...
Eh bien, on la commence avec un petit teaser, puisque ce que nous dit la presse d'aujourd'hui ressemble beaucoup aux éléments d'un scénario de film. Alors, un scénario de film, mais de quel genre? Eh bien, c'est la question. Film d'action, drame ou film catastrophe, à vous de voir.
Et on commence donc par le film de combat.
Oui, sur la une de l'Express ce matin, en effet, deux figures bien connues qui s'étaient affrontées à coups de poudre de perlimpinpin et de logorée outrée en mai 2017, et un titre, Macron-Le Pen, le match retour. Pour Christian Macarian dans Libé ensuite, le vrai match est bien celui qui oppose Macron à Viktor Orban. D'un côté, un président qui veut s'afficher comme leader continental et qui défend liberté, diversité des opinions et création. Et de l'autre, un premier ministre hongrois attaché à un nationalisme revisité, à la lutte contre la finance internationale et à faire pencher en son sens le groupe de Visegrad.
On parle d'Europe donc dans la presse du jour.
Exactement, et on passe ici, on peut le dire, dans un registre qui se rapproche du drame. Dans l'édito de Libé, la grande idée, c'est que l'Europe n'a plus de cap. En guise de preuve, la journaliste souligne les récents événements, tous symptomatiques de la dérive d'un projet européen qui peine à rester cohérent. Le vote sur le Brexit d'abord, les désaccords entre Macron et l'Allemagne et la situation en Italie. Le Point, lui, préfère au mélodrame l'ironie cynique et propose cette semaine un magnifique photomontage. Macron, les yeux levés au ciel et les mains tendues au-dessus d'un billet de banque. Et pour accompagner la photo, la phrase suivante, les classes moyennes supérieures vachent aller de l'État, Macron va-t-il continuer à faire payer les mêmes? Rassurez-vous, on ne parlera pas ici de film à suspense, il semblerait qu'on ait déjà deviné à la fois la réponse à la question et la fin du film.
Combat, drame, ironie, et si on parlait un peu d'action?
Bonne idée en effet, puisque c'est un appel à l'action que nous lance aujourd'hui l'Obs. Oui, nous tous, nous avons une mission, il faut sauver le soldat Macron, c'est ainsi que Serge Raffi a choisi de titrer son édito. Certes, nous dit-il, notre président a pris de haut la France d'en bas et s'est laissé dévorer par son hubris démesuré. Mais il reste le représentant légitime de l'État de droit et le président de la République que le peuple a élu. Plus encore, il serait, je cite, le rempart contre le chaos, l'insurrection généralisée et contre une France trumpisée. Le plan d'attaque donc, penser à un nouveau pacte social et éventuellement voter contre Macron aux prochaines élections, mais pour l'instant, protéger la République. Mais bon, tout ça n'est qu'un détail face au sujet que tous les journaux ont choisi de traiter aujourd'hui, chacun à leur manière, l'urgence climatique.
Une urgence climatique que tous, je crois, ne voient pas du même œil.
Exact. Dans certains journaux, on parle des héros du scénario qui se joue aujourd'hui. Dans les Arocs, par exemple, on affiche en couverture un jeune manifestant, gilet jaune sur les épaules et les mots « No Planet B » inscrits sur le front. Et on consacre un article à la désobéissance civile, devenue essentielle dans des sociétés qui vouent à la croissance un culte démesuré. Sur la une de l'Obs, Greta Thunberg une pancarte à la main et un titre en grand caractère « Comment les jeunes vont changer le monde ». Et dans Libé en titre « Pour en finir avec la fin du monde » et on laisse la place aux écrivains. C'est Nicolas Mathieu, prix Goncourt de cette année, qui est rédacteur en chef du numéro et invite une trentaine d'auteurs à partager leur vision sur l'actualité.
Une vision lucide mais pas toujours enthousiasmante.
Exactement. Nicolas Mathieu d'abord croit voir dans la lucidité des jeunes une énergie du désespoir, énergie dont a bien besoin un monde dominé par des optimistes, soucieux, je cite, d'enrober le drame du réel du meilleur alibi pour ajourner les mesures qui s'imposent. Et dans lequel, je cite une nouvelle fois l'écrivain, nous allons dans la nuit, les mains tendues, gémissant et sans pouvoir comme des zombies. On sombrerait presque dans le film d'horreur. Mais Jean-Marie Clésio, lui, préfère le biopic et dresse un portrait de Greta Thunberg, cette Suédoise de 16 ans qui a initié le mouvement des grèves pour le climat. Reçue par les plus grands, elle évite dans ses discours les hyperboles, les statistiques inutiles et les promesses de Gascon et nous fait pour l'auteur méditer sur une question troublante. Comment avons-nous osé accepter que ceux qui vont pâtir le plus du réchauffement climatique seront les générations futures, soit justement celles qui n'ont pas participé au saccage de notre planète?
Mais c'est une question que ne semble pas se poser... Laurent Alexandre dans les pages de l'Express.
Oui, et là, accrochez-vous, on bascule dans le film d'horreur. En effet, le chirurgien énarque et entrepreneur, on note le profil, nous livre dans les pages de l'Express une vision inédite du mouvement des grèves pour le climat. Pour lui, on ressuscite les peurs de l'an 1000 en faisant croire à une jeunesse qu'elle brûlera sous les flammes du réchauffement climatique et on tente d'imposer, je cite, par la dictature, un vrai retour en arrière. Et le journaliste de citer Greta Thunberg réclamant une division par quatre de notre consommation énergétique, une mesure selon lui totalement illogique qui ramènerait notre consommation au niveau de celle du Nigeria. En bref, j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise, on persuade la jeunesse que la seule solution est d'accepter la dictature et de revenir au Moyen-Âge, alors interdisons aux ayatollahs verts de démoraliser nos enfants et de les rendre dépressifs. Bon, rassurez-vous, l'antidote à tout cela, c'est l'action, et plus précisément celle des jeunes, les héros du jour. Environnement, démocratie ou climat, l'humanité dresse le portrait d'une génération qui a décidé de prendre les choses en main. Il s'agit d'abord d'une analyse. Analyse du mode d'action de ces moins de 25 ans qui mêle deux éléments essentiels. La ZAD d'un côté sur les grands combats politiques contre le système et de l'autre les petits éco-gestes et le combat hyper-local. Dans l'Obs ensuite, il y a les portraits, tous aussi inspirants les uns que les autres. Sonita Alizadeh, qui rappe pour dénoncer le mariage forcé, Carolina Farska, à l'origine d'un vaste mouvement de contestation populaire contre la corruption en Slovaquie, Joshua Wong, qui fonde à 17 ans un parti politique pour l'autodétermination de Hong Kong, ou Kelvin Do, qui invente des batteries à partir de soda, d'acide et de métal, et apporte à son village du Sierra Leone de l'électricité ainsi qu'une station radio.
Et c'est super inspirant tout ça, mais alors on parle beaucoup de films et je crois qu'il est aussi question de littérature aujourd'hui.
Oui, à l'occasion du Salon du Livre qui a lieu ce week-end à Paris, les journaux en profitent pour nous donner des conseils de lecture. Dans Le Monde par exemple, on nous recommande chaleureusement Les Racines de la Colère, ouvrage du photographe Vincent Jarousseau, un artiste qui s'est installé 2 ans à Denain, dans le Nord, ancienne cité de l'acier considérée aujourd'hui comme l'une des plus pauvres du pays, afin de raconter, je cite, « une France qui n'est pas en marche ». Un livre documentaire sous forme de roman photo qui nous plonge dans l'intimité et la lutte quotidienne de 8 familles. Et puisqu'on parle de littérature, citons aussi L'Humanité, pour qui seule la culture peut sauver l'Europe, ou cet article du Monde qui évoque un curieux concept mis en place par le Cirque du Soleil. Les cahiers de doléances poétiques, ou quand Ariane Mnouchkine, propose aux spectateurs de noter leurs souhaits et leurs envies. Et le résultat, qui mêle envie, coup de gueule et poésie, est inspirant. Vive la culture et l'air pur, vive la dictature du bonheur, j'aimerais qu'on remplace les sirènes de Paris par celles des violoncelles, peut-on lire entre autres. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les prochains articles de presse ne nous parlent plus de films catastrophes ou de mélodrames, mais plutôt de biopics inspirants, de comédies ou d'aventures.
Merci Marie.